Savourez nos différences.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est beau micro, on va partir pendant une heure, on va avoir une interview, on va voir de la castagne, du voyage, de l'humanitaire, de la mythologie et du virus. Mais avant tout ça, on va partir sur le générique, si j'y arrive. Générique, c'est parti.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Je l'ai déjà dit, c'est Seb au micro, on va être ensemble pendant une heure, mais je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Fabien. Ça va Fabien ?
Ça va très bien et toi ?
Bah ça va, il fait beau.
Ouais, c'est cool.
Et pas trop chaud.
Non.
Ça a monté, mais c'est pas mal. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui parle truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. C'est top tout ça. Et puis ce soir, on va accueillir aussi en interview quelqu'un, puisque je suis en compagnie de Connie Davis. Bonsoir Connie.
Bonsoir Seb.
Ça va ?
Oui, ça va, et vous ?
Ça va, ça va. Pourquoi tu es avec nous ce soir ? On va parler de ta bande dessinée Petrichor, qui a été pré-publiée et qui est sortie en auto-édition, si je ne me trompe pas. C'est bien ça,
hein ? Exact, oui.
Ok, parfait. Donc Fabien, tu n'hésites pas, je vais lider l'interview, mais si tu as des questions, tu es tout à fait libre de les poser.
Ça marche, bonjour.
Bonjour.
Première question, une question toute simple, qui es-tu ?
Alors, je suis Connie Davis, je suis auteur, illustrateur de bande dessinée en général, et concept artiste depuis 2021, je suis sortie d'école. Et maintenant, je fais de l'auto-édition et je fais aussi des BD qui vont être édités actuellement au Canada.
D'accord, ok. Donc, artiste international, on va dire.
On va dire, bah, je suis anglaise de base, donc...
ça y avait un petit accent quand même, hein. C'est ce qu'on s'était dit. Ouais. Je resitue un petit peu, on s'est rencontrés à l'Angers Geek Fest où on a fait une interview que j'ai malheureusement perdue, qu'on avait décalé un petit peu parce que justement tu me disais que tu t'exprimes plus facilement quand même en anglais, mais bon, ça va bien se passer ce soir, il n'y a pas de problème là-dessus. Avant de parler de Petrichor en tant que tel, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à la bande dessinée ?
Alors, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en Angleterre, en tout cas qui n'existait pas trop quand je suis partie. La France a une culture de la BD et du manga qui est très particulière en Europe, en tout cas. Et en arrivant en France, j'ai commencé à apprendre le français sur place, parce que j'en avais pas de cours de français en Angleterre. Et une des choses que j'ai découvertes, qui m'aidait beaucoup, c'était la bande dessinée, parce que je passais par des images pour comprendre des choses que je ne pouvais pas lire à l'époque.
Okay.
Une des BD que j'ai commencé à regarder, c'était Les Légendaires de Patrick Sobral, qui est l'enfance de pas mal de personnes de ma génération.
Une bonne ref.
Et à partir de là, j'ai commencé à me dire que j'ai envie de faire de la BD, j'ai envie d'y croire. À l'époque, j'avais pas énormément de talent, mais j'y ai travaillé pendant longtemps et maintenant, plus de 10 ans après, j'y suis.
Bah parfait. Tu disais que tu es concept artiste à la base, c'est ça ?
Je suis concept artiste de formation.
Ok. Et du coup, c'est quoi l'origine de Petrichor ? D'où est-ce que ça te vient ?
Alors, l'origine de Petrichor, c'est un chemin très long et très sinueux. J'ai commencé à l'écrire en 2016 au lycée, qui était un moyen parallèle d'à la fois exprimer mon amour pour l'eau, d'inventer un monde où tout le monde aurait la même obsession pour la beauté de l'eau que moi, donc un monde où il n'y a pas d'eau, ça fait sens, et aussi une façon d'exprimer en quelque sorte mes peurs par rapport à la politique que je commençais à découvrir à l'époque, j'avais que 16 ans, en 2016, et un des trucs que je commençais à voir en 2016, évidemment, il s'est passé Trump, il s'est passé Brexit, donc c'est des deux choses qui étaient très, très de l'actualité à l'époque, et une des choses que j'avais envie de faire, c'était d'essayer d'écrire un monde dystopique qui serait un peu les pires choix qu'on puisse faire en tant qu'humain pour arriver à un monde essentiellement logique. On sait comment on est arrivé là, mais que j'espérais ne jamais voir arriver.
Ok. Oui, effectivement, voilà. C'est pas un monde qui est très très joyeux quand même.
Non.
Est-ce que tu peux du coup nous présenter Petrichor ? De quoi ça parle ?
Alors, Petrichor, c'est l'histoire d'un monde dystopique. On arrive en 2415, la Cinquième Guerre mondiale bat son plein, et il y a tellement de pollution due à ces bières qu'il n'y a plus d'eau. En tout cas, en France, il y a des enfants qui n'ont jamais eu l'eau de leur vie. Et ensuite, l'histoire de Ray, qui est un jeune réfugié qui vient du Qatar, qui suit la guerre là-bas, le blitz, et essaye de se construire une meilleure vie en France. Ce plan tombe à l'eau, très rapidement à cause d'Alice, qui est une fillette très étrange, visuellement elle a des yeux aliens, elle a pas trop l'air de comprendre ce qui se passe, mais tout ce qu'on sait c'est qu'elle est poursuivie par la police, et ni Ray ni Alice ne savent pourquoi. Dans un élan de, on va dire de folie, Ray décide de l'aider et part sur la vie d'un fugitif de la justice, et rejoint une faction rebelle qui essaye de révéler la vérité sur Alice, sur d'où elle vient, sur le laboratoire qui est à son origine. Et il s'avère que c'est en train de tirer le voile sur un complot à l'échelle mondiale.
Oh, c'est dense et ça n'a pas l'air effectivement très joyeux.
Non.
C'est une BD que tu as pré-publiée. Alors, c'est un webtoon du coup ?
Oui, j'ai pré-publié sur webtoon et puis... La version physique a été par crowdfunding sur Ulule.
D'accord. La version physique, il y a un tome 1 pour l'instant, c'est ça ?
C'est ça.
C'était financé quand ? Juste me donner la date sur les prépublications et puis sur la version physique.
Alors, j'ai commencé la prépublication sur Tapas, ça a commencé d'abord parce que j'ai commencé à publier en anglais, puis en français, puis la version physique.
Okay.
La version anglaise a commencé en fin 2021, si j'ai, mes souvenirs sont bons. La version française a commencé en début 2022. Et la publication en physique s'est faite en 2024. Donc c'est tout récent pour moi.
Ok, c'est tout récent. Beaucoup d'expériences différentes du coup, parce qu'effectivement, que ce soit la prépublication, que ce soit le financement participatif, c'est des exercices qui sont différents. C'est facile de jongler un petit peu avec tout ça ?
J'apprends en faisant, on va dire. je pense qu'en termes de prépublication, je gère à peu près maintenant. Le plus dur, c'est d'avoir prévu assez de pages en avance pour pouvoir avoir une publication régulière. Surtout que si vous avez vu mes pages, elles sont quand même assez intenses en termes de travail de couleur.
Oui.
Donc ça prend pas mal de temps. Donc j'essaye d'avoir plusieurs mois en avance. Sur Patreon, parce que je publie d'abord sur Patreon, ensuite sur Tapas, ensuite sur Webtoon.
Ok.
Quand une page sort, généralement j'ai une dizaine de pages en réserve pour me donner le temps.
Ok, ça donne quand même un rythme en fait à maintenir pour justement avoir une publication assez régulière, quoi.
Oui, je dis souvent que je pense pas en semaine, je pense en période de 6 mois.
Ok.
J'avais une petite question, moi, de mon côté. Je voulais savoir, par rapport à la sortie Webtoon et la sortie papier, l'adaptation du format numérique Webtoon, qui est un peu particulier, au format papier, ça demande beaucoup de travail supplémentaire par rapport à ça ?
Dans mon cas, non, parce que j'avais toujours l'intention de les publier en format papier. Donc, tout ce que je fais, c'est en format de page. Et je suis un peu en train de sacrifier du succès sur Webtoon et là, un peu de lisibilité sur Webtoon pour pouvoir avoir cette disposition de page directement.
Ok, donc c'était déjà prévu en amont comme ça, et c'était la facilité, entre guillemets, du Webtoon qui permettait l'autopublication de cette manière-là.
C'est ça.
Okay.
C'est ça.
J'ai une question complémentaire à ça, justement. Quand on regarde les planches, effectivement, il y a beaucoup de travail de couleur. Comment tu travailles ? Tu travailles déjà en numérique ou tu travailles plutôt en traditionnel ?
Alors, la plupart des pages sont directement faites au numérique. Donc, tout est fait de A à Z, croquis, line et couleurs sont faits au numérique. Il y a certaines pages, et ça va être pareil sur le tome 2 aussi, que j'appelle les pages séquences rêves, qui sont des pages que je fais en traditionnel et que j'ancre en traditionnel, que je scanne ensuite, et si jamais il y a de la couleur, là c'est fait en numérique. Mais c'est les pages que vous allez voir qui sont un peu plus style aquarelle et avec du noir et blanc, et il y a un peu plus de texture. Donc, c'était quelque chose que je voulais faire moi pour pouvoir avoir une cassure nette entre les séquences rêves et les séquences réelles.
Ok. Et pourquoi ce choix du numérique en prioritaire?
C'est un outil que j'utilise très régulièrement depuis, je pense, 2015-2016. Donc, au point où on en est, j'ai plus de 10 ans d'expérience dessus. C'est au point où ma première tablette, j'ai dû la changer parce que la surface miroitait tellement j'avais frotté dessus à dessiner. Donc, le choix du numérique, c'était pour moi un choix logique parce que ça permettait de faire des changements rapides, des ajustements, parce que l'alternative, c'était de travailler en acrylique, ce qui est aussi un médium que j'utilise pas mal, la peinture. Et le problème de l'acrylique, c'est que c'est un peu plus long. Ça nécessite d'avoir la lumière du jour, surtout, pour que les couleurs fonctionnent. Ça nécessite aussi d'avoir un scanner qui sait bien la couleur, et je n'en suis pas actuellement en possession d'un bon scanner.
Okay.
Donc, j'ai fait avec les moyens que j'avais.
Ok. Ah bah, le rendu est plutôt efficace. Hein. Fabien découvre là tout de suite. Est-ce que tu veux donner ton avis justement sur ce que tu as découvert de la BD?
Bah moi, de ce que j'ai vu là, en tout cas, ça a l'air très très coloré comme monde, malgré le fait qu'on parle d'une dystopie qui a l'air assez sombre en termes d'histoire. On a l'air de faire ressortir énormément les couleurs et les traits sont assez appuyés sur les personnages. J'ai trouvé ça assez agréable à regarder comme ça. Alors j'ai pas pu parcourir complètement, mais en tout cas, ça a l'air vraiment très sympa et très coloré par rapport au terme très sombre. C'était voulu, ce décalage en fait entre la partie très sombre de l'histoire et la partie très colorée des dessins.
Oui, c'est quelque chose que je voulais faire ressortir parce que bien que les couleurs un peu sombres, ça reflète plus le côté du monde. J'avais envie de refléter le fait que de un, les personnages ont grandi dans ce monde, donc pour eux, c'est un peu la norme et c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir plus d'émotions. Parce que quand on a les couleurs ternes, ça a tendance à ternir les émotions aussi. Alors que j'avais toujours prévu que ce soit un monde où il y ait des émotions fortes, très très souvent. Et si tout est sombre et d'un coup c'est super coloré, ça va être un peu plus difficile de faire ressortir ça. Surtout au début, ce côté où Ray est un peu, j'ai envie de dire, submergé par ce qui lui arrive. L'idée des couleurs fortes, il y a une scène dans le chapitre 2 où les couleurs sont extrêmement fortes, des bleus et des roses et des violets et des rouges très forts. Là, oui, c'était vraiment intense. Pour faire ressortir. C'était vraiment pour faire ressortir le côté trop plein, surexposition de tout, parce que Ray est totalement désorienté à ce moment-là.
Parfait, ça se ressent bien. Pour le coup, c'est des chapitres que j'ai lus et effectivement, ça marche, c'est efficace. quoi dire de plus? Il y aura un tome 2, bien sûr, qui sera sans doute en financement participatif aussi.
Également, oui, prévu.
Est-ce qu'il y a déjà une date de prévu pour ça?
On est un peu trop éloigné, surtout que depuis que j'ai sorti le tome 1, j'ai été engagée pour faire une autre BD en parallèle où je ne fais pas le scénario ni la couleur.
Ok.
Donc c'est quelque chose que je peux jongler en même temps, mais ça reste un facteur que je n'avais pas avant et que je ne peux pas tout à fait prévoir sur le long terme.
Ok. Cette autre BD pour laquelle tu vas travailler, tu peux nous en parler un peu ou pas? Ou c'est top secret?
Je suis NDA, je ne peux pas.
Ok, Ça sortira en France quand même?
Oui.
Ok. J'ai un gros éditeur?
Je ne peux pas en parler.
Je n'insiste pas.
Bien tenté, Seb.
J'ai essayé, mais... tous les chapitres, du coup, seront quand même publiés pour Petricor en Webtoon.
C'est ça.
Il y a combien de tomes de prévus? J'imagine que si tu anticipes déjà pas mal, tu sais déjà à peu près où va, jusqu'à combien de tomes va aller ton histoire?
Alors, j'ai écrit en termes de scénario, dialogue, tout. J'ai écrit jusqu'au chapitre 7 et j'ai prévu jusqu'au chapitre 14. Donc, il faut penser deux chapitres par tome à chaque fois. Ça va être long.
Ok, effectivement. Série au long cours.
Oui, c'est long. C'est pour ça que je fais du financement participatif, parce que c'est de la science-fiction qui, de base, est un genre qui est quand même relativement restreint, surtout depuis la fin de l'essor de Hunger Games et et compagnie. C'est un genre qui n'est pas super apprécié en édition à cause du public relativement petit par rapport à d'autres genres. Donc je savais que celui-là, il faudrait que je m'y mette tôt et que je m'y mette seul.
Ok. Où est-ce qu'on peut te trouver en dehors des festivals? Parce que tu fais pas mal de festivals, c'est l'occasion de te rencontrer à ces moments-là. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet et puis éventuellement tes prochaines dates de festival, si tu veux en parler maintenant, c'est...
Alors, on peut me trouver sur Internet à Moontokym, Moontokym, quasiment partout, Instagram, Blue Sky, YouTube aussi.
Ok.
On peut également, en mai, si vous êtes sur Nantes, je suis au magasin Créateur de Carquefou. À Carquefou, c'est 5 rue des Halles,
okay.
C'est une petite ville au nord de Nantes, donc si jamais vous voulez passer et que vous voulez éviter les frais de port, c'est par là. Et sinon, pareil au festival, je postule actuellement pour pas mal de festivals locaux, et puis on va voir, c'est un peu trop tôt pour savoir si je suis prise, parce que c'est en septembre et novembre.
D'accord, donc à surveiller quand même.
À surveiller quand même, mais je vais les annoncer quoi qu'il arrive.
Eh ben parfait. Eh ben chers auditeurs, n'hésitez pas à suivre Connie Davis, Moontokym sur les réseaux, directement sur ces réseaux pour être au courant de toutes les actualités. Merci beaucoup Connie.
Merci à vous.
Et puis on se retrouvera certainement une autre fois pour les futures sorties.
J'espère bien.
On vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de succès dans vos publications.
Merci.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Eh ben Fabien, c'était top ça.
Ouais, c'est toujours super intéressant d'avoir des auteurs comme ça qui parlent un peu de d'où ils viennent et comment ils font.
Eh ben parfait. Je te propose qu'on se fasse une petite pause musicale sur cette fin d'interview. Je vais mettre. Grimms, Players of Game. Tu connais Grimms ou pas?
Pas du tout.
C'est l'occasion de découvrir.
Exactement.
Si j'arrive à la lancer. Ah voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après sur le 100.5 de Radio G.
Radio G. 101.5 FM.
Vous êtes de retour dans la case de Seb, toujours Seb au micro. Voilà, on vient d'écouter Grimms, Player of Game. Voilà. T'en penses quoi de Grimms, Fabien, du coup?
Oui, c'est plutôt cool. Alors, c'est pas ce que j'écoute, c'est pas, c'est pas trop mon style de musique, mais bon, c'est plutôt chill, ça va, c'est sympa.
Bon, tant mieux. N'oubliez pas que vous pouvez nous parler directement dans le chat sur le www.radio-g.fr, onglet chat. On vous répond si vous avez des questions. Hop, on va faire un truc qu'on a commencé il y a pas très longtemps, on va parler des suites, si ça te va.
Eh bien, bien sûr, allons-y.
Alors j'ai un jingle qui est toujours en cours de création, peut-être qu'il sera après d'ici 2026, mais tout va bien. Alors je ne sais pas si les gens se rappellent de Viral Hit. Viral Hit, c'est un webtoon qui est sorti dans la collection Pika Wavetoon. Le tome 3 est sorti il y a quelques semaines déjà. On a Kim Jun-yoon au dessin et Park Tae-jun au scénario. Je te les passe, tu vas pouvoir parcourir et feuilleter. Pendant que je résume, l'histoire est très simple. C'est celle d'un jeune garçon qui s'appelle Obin et qui est un petit peu un loser. Il se fait malmener beaucoup dans sa classe. Et puis un jour, par un concours de circonstances, il se fait filmer en train de se battre avec quelqu'un. Et cette vidéo part sur YouTube. C'est le YouTube de ce monde-là, puisque par la grande magie du copyright, on n'a pas tout à fait le droit de mettre les noms. Et Obin va se rendre compte d'un truc, c'est que cette vidéo va créer de l'argent. Et comme Obin a besoin d'argent, puisque sa maman est très malade et qu'elle a besoin d'opérations, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les manoirs, hein, des gens qui sont hospitalisés, donc il y a peut-être un petit problème de système de santé en Corée, petit message subliminal, je pense, des auteurs, et il se dit, et si j'allais commencer à castagner des gens, me filmer et gagner de l'argent en faisant mon propre compte YouTube. L'idée, elle est pas trop mauvaise. Problème, Obin, il fait 1m70 pour 40 kilos. Donc, je vous laisse imaginer quand il décide d'essayer de s'en prendre au bully, en fait, de sa classe. Je cherche le mot, Fabien, aide-moi, sauve-moi.
Ah, c'est quoi, celui qui le harcèle?
Ouais, son harceleur, en fait, dans la classe. Mmh. Merci. Okay.
Mais je t'en prie.
Et qu'il va décider de filmer ça, et il va voir que ça va effectivement bien marcher. Pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'ai aimé Viral Hit? Parce que Obin est un loser, un vrai gros loser. Et même quand il essaye d'aller affronter des gens plus costauds que lui, chose qui est quand même très inconsciente, on le voit s'entraîner, il s'entraîne très fort. Et il se fait quand même déboîter systématiquement, ce qui donne un côté loser magnifique. Et pourtant, il est très créatif dans sa bagarre. Ce qui fait que il va pouvoir remporter des combats qui normalement sont complètement hors de sa portée. Et ce qui est super cool au niveau scénario, c'est qu'il y a toujours des twists dans tous les sens et que ça marche très bien. Obin, loser, se retrouve, il est amoureux d'une jeune femme qui est très très belle et très intelligente. Et un jour, il lui dit, et le twist, c'est qu'elle dit, ok, je suis d'accord. Et alors qu'on l'attendait pas du tout. Dans ces bagarres, c'est exactement ça. C'est, je dirais, Viral Hit, c'est un petit peu le penchant super réaliste de One Punch Man. Dans One Punch Man, on a des chapitres énormes qui nous montrent un ennemi qu'on espère qu'il va faire des combats un peu plus intenses que juste de se faire lapider en un coup. Eh ben, Obin, on est presque dans ce gabarit-là. On espère qu'il va pas se faire sécher en un coup non plus, alors que c'est lui le héros. Et puis, il en prend plus d'une patate, hein, parce que vraiment, il est pas... Il est acharné, mais il n'y arrive pas.
Ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais le manga Overbleed.
Ah non, ça ne me dit rien.
C'est un manga, en fait, où au départ, t'as un personnage qui se fait un peu martyriser et tout ça, qui est un ami d'enfance, donc ça. Et ils décident tous les deux, au départ, de se suicider, chose qui ne fonctionne pas. Il le perd de vue, cet ami, et il le retrouve sur des sortes de réseaux sociaux de combat, comme on a là.
Okay.
Et il se dit, je vais tout faire pour le retrouver, donc qu'est-ce que je vais faire? Moi qui suis nul et tout ça, je vais me mettre à participer à ces combats-là et à être filmé. Donc j'ai un peu ce côté dans ce que tu viens de me dire qui me fait penser un peu à ce manga.
Ouais, effectivement, il y a quelques points.
Parce qu'en effet, il est aussi pas bon non plus, donc on se dit qu'il va se faire avoir, mais il est acharné un peu pareil, c'est-à-dire qu'il ne lâche rien, et du coup on va avancer comme ça. C'est assez court comme manga, mais ça m'a fait penser un peu à ça au niveau baston et tout.
Bah là, il y a ce côté shonen en fait du héros qui a décidé de toute façon de gagner de l'argent via YouTube et qui va tout faire pour y arriver.
Okay.
Et il va essayer de se dépasser systématiquement. Et même quand il sait que les combats qu'il va mener sont sans doute perdus d'avance, eh ben il se réfère quand même à YouTube puisqu'il a une chaîne qu'il va voir qui lui donne des conseils. C'est un mec qui est ultra musclé avec juste un masque de coq. Donc un coq de combat hein, qui fait des tutos pour apprendre à se battre pour faire du street fight. Et ça marche à chaque fois parce qu'il est créatif, parce qu'il est acharné, et je vais pas vous spoiler, lisez-le, il y a des petits retournements de situation, tu fais OK. Et ça se renouvelle, ce ne sont pas juste des retournements de situation dans du combat. On a plein de trucs dans ce manhwa, dans ce webtoon. Qui fonctionne très bien. C'est une critique de la violence à l'école, c'est une critique aussi de YouTube, puisque les revenus sont liés à plein d'éléments, et comme c'est un petit peu le nerf de la guerre pour Robin, c'est des choses qui sont pas mal critiquées. Et il y a aussi la critique du harcèlement scolaire, qui marche très très bien. Et c'est vraiment un truc qui est très très cool. Donc allez-y. Là, il y a 3 tomes, il y a une série animée que je n'ai pas encore vue, qui est sorti de mémoire l'année dernière. J'ai pas l'impression qu'il y aura une saison 2, donc peut-être qu'elle a pas très très bien fonctionné. Mais moi, c'est vraiment une série où le héros au départ, on se dit, ok, toi t'es un vrai loser, tu vas me saouler, et en fait, on s'accroche parce qu'on l'aime bien, et il a un vrai arc narratif. C'est ça qui est super cool aussi, c'est qu'on voit une vraie évolution, et c'est pas une évolution où il va juste devenir le plus fort. Hein. Je préfère vous préciser. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien.
Ok. Bon, en tout cas ça donne envie de tester. Ça a l'air cool.
Why not? Je te laisse redonner les refs.
Ouais. Alors c'est Viral Hit chez Pika Wavetoon, au dessin Kim Jung Yoon et au scénario Pak Tae Jun.
Eh ben c'est tout. C'est parfait. Est-ce que tu veux toi nous parler d'un truc?
Bah écoute, oui, pourquoi pas. Soit une BD, soit un manga, comme tu préfères.
Ok. Comme tu veux. Allez, manga. Manga parce que ça me permet de mettre ton générique.
Ça marche.
Et puis, parce que si tu parles de l'autre, c'est pas du tout le générique, il marche pas. Hop, tu es ici, et c'est parti. Kaizoku Oni. Kore wa nare.
Nani ? お前はもう死んでいる。ワンワールド !
Et de quoi tu nous parles du coup ?
Alors du coup, j'ai dit que j'allais parler manga, mais en fait, je vais m'attirer quelques foudres de certains puristes qui me diront « Mais ce dont tu ne vas parler, ce n'est pas un manga ». Eh ben moi, je vais tout de suite dire « Eh ben si, pour moi, c'en est un quand même ». Parce que de quoi je vais parler ? Je vais parler de Dreamland.
Et donc, mais c'est pas un manga.
Voilà. Et ben voilà. Et ben en fait, Dreamland, c'est pas réellement un manga dans le sens où c'est un auteur français qui l'écrit. Mais pour moi, il a toutes les cases du manga. Donc, plutôt que dire c'est un global manga, c'est un manfra ou je ne sais quoi, ben moi je préfère dire c'est un manga. Et je pense que l'auteur lui-même doit le classer comme un manga, vu que tout est écrit en sens de lecture japonais, tout respecte les codes du shonen. Il y a énormément de références à plein de shonen très connus. Donc je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un manga.
Alors je me permets, est-ce que j'avais eu l'occasion d'interviewer l'auteur, Renaud Lemaire, il y a quelques années, et je pense que je lui avais posé la question, mais je ne me souviens malheureusement plus de la réponse.
Ah bah bravo.
Donc, mais pour moi, je le qualifie comme beaucoup de manga français en fait.
Oui voilà, c'est un manga français, mais voilà. Et comme on va voir après, il coche vraiment toutes les cases pour moi d'un manga.
Eh bien je te laisse y aller.
Donc du coup je vais vous parler de Dreamland. Donc comme a dit Seb, l'auteur... Et au dessin et au scénario, c'est Renaud Lemaire. On est aux éditions Pika. Alors, c'est pas du tout une nouveauté, hein. J'en parle là parce que je suis en pleine lecture. Je le découvre. Et du coup, je me suis dit, je trouve ça très cool. Je vais donc en parler.
Il y a une renouveauté. Je pense que t'en parleras.
Ouais,
après.
J'en parlerai après. En effet, il y a une renouveauté un petit peu sur Dreamland. Et donc, c'est toujours en cours de parution avec 22 tomes. Le début de sortie, c'était en 2006. Donc, ça commence à faire déjà quelques années. Donc, on est sur un shonen d'aventure fantastique. Hein. De quoi ça parle exactement? En fait, c'est Terence, un jeune lycéen timide qui veut séduire en fait Lydia, la fille qu'il aime depuis toujours. Jusque là, chose assez classique. Donc, quand on dit lycéen, c'est vraiment fin de lycée. Hein. Ils sont en dernière année du lycée. Et donc, il y a une nuit, sa vie qui va bascule dans un cauchemar. Il surpasse sa peur de toujours, qui est le feu. Et à partir de ce moment, il mène une double vie. Il va être un lycéen banal le jour et un contrôleur du feu la nuit dans Dreamland, le monde des rêves.
Trop cool.
Donc ça, déjà, moi, j'ai trouvé ça très cool. Parce que tout de suite, quand on dit monde des rêves, on se dit... Oh, bah alors là, profusion, il peut faire un peu ce qu'il veut, ça peut aller un petit peu partout, il peut explorer plein de choses différentes, sans contrainte en fait, parce que bah, monde des rêves, voilà, on est vraiment libre de tout ça. Donc moi j'apprécie beaucoup cette lecture, parce que déjà j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais jamais pris le temps, alors que bah, j'ai cette série-là depuis pas mal de temps dans ma mangathèque, mais je sais pas, j'y étais jamais allé, puis il y a un soir, envie de changer un peu des seinen et des trucs un peu, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir... lire de fun et de cool avec de l'action, je me suis dit tiens, ah bah, je suis tombé sur Dreamland, je me suis dit bah allez, il faut que j'y aille, donc je vais tester quand même enfin. Et donc là, j'ai pas été déçu, hein. J'ai trouvé vraiment beaucoup de qualité dans la série. Le rythme, il est hyper entraînant, il y a plein de scènes super drôles. Franchement, les personnages, ils sont loufoques. Quand ils sont dans le monde des rêves, ils se font plaisir au possible. On rigole bien, les scènes d'action sont très cool, très variées. Le monde des rêves offre plein de possibilités. Donc je vais pas dévaluer qui sont et hop oula pardon blablabla on va recommencer. Donc je vais pas en dire beaucoup plus histoire de pas vous gâcher en fait l'univers en tant que tel, mais Renaud Lemaire a été quand même assez fort de réussir à faire évoluer ces personnages là dans ce monde, car en fait il invente vraiment tout un écosystème complet de zéro, avec un petit géopolitique quand même malgré tout aussi qui se prend au fil des thèmes, qui est très sympathique. Et du coup on se retrouve vraiment plongé avec eux dans ce monde. Mais il y a autre chose un autre parallèle qui est très intéressant dans ce manga-là, c'est qu'on va aussi avoir la vie de tous les jours de ce héros Terence, donc qui doit avoir 17-18 ans, parce qu'il passe son bac quelques mois après le début de la série. Et on va voir tout ce qu'il y a dans la tête d'un jeune adulte à ce moment-là. Donc toutes ses peurs, tous ses doutes, tous ses questionnements. Et du coup, c'est aussi à ce moment-là où je mets un petit warning par rapport à l'âge du lectorat, parce que on parle d'un shonen, donc on pourrait dire sans souci, ouais, ça peut être à partir de 12 ans, par rapport notamment à tout ce qui se passe dans Dreamland. Je suis à peu près là-dessus, je dirais, ah ouais, c'est le shonen classique d'action et tout ça. Par contre, quand on bascule dans ce monde réel-là, on a vraiment ce côté réaliste de ce qui va se passer entre les personnages et de tout ce qui se pose comme question, dont notamment la sexualité, puisqu'il se pose plein de questions. Il arrive avec sa copine, comment ça va se passer, les soirées très alcoolisées d'étudiants. Donc moi, je mettrais un petit warning là-dessus pour dire, bah, je pense qu'on est plus sur du 14-15 ans pour cette lecture-là, même si les sujets, je les trouve très bien abordés. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de vulgaire, c'est vraiment amené à montrer...
Naturellement,
et vraiment les questions qu'on a pu se poser aussi à notre époque quand on avait ces âges-là, quoi. Et côté dessin, bah en fait, qu'en est-il? Moi, je trouve que le dessin est bien réussi. Alors, les premiers tomes sont pas exceptionnels, clairement. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de détails, très peu de décors. Mais par contre, on sent que ça s'améliore vraiment au fil des tomes. Je pense aussi que, manga français 2006, les départs, ça doit pas être évident de trouver d'avoir du temps, de pouvoir être édité et tout ça. Donc, je pense qu'il a fallu qu'il se lance et qu'on lui autorise plus de temps, peut-être pour la suite, pour faire des planches qui sont de plus en plus jolies. Mais j'ai trouvé, par contre, côté découpage et rythme, que ça fonctionnait vraiment très, très bien, ce qui m'a pas du tout gêné dans ma lecture des premiers tomes. D'ailleurs, je pense que lui-même, n'était pas satisfait de son travail, parce que là, on va en venir notamment, donc, à ce que
tu disais,
au renouveau, puisque il a été décidé de recommencer les premiers tomes, donc il les redessine entièrement là, et donc je sais pas, par contre j'ai pas fait attention à quel tome il était, parce que moi j'ai l'ancienne collection, je sais pas s'il est au tome, mais il est au début hein, je crois quand même.
Je crois que il doit être au 4 ou 5, tu vois, ou un truc comme
d'accord.
Ça.
D'accord, ok. Et donc, bah voilà, il s'est dit, mes premiers tomes n'étaient pas exceptionnels niveau dessin, j'ai pas pu faire tout comme je voulais, j'avais peut-être pas encore le bagage technique. Parce que forcément, comme tout auteur, hein, tout manga long, on voit toujours un départ et une fin, c'est pas du tout les mêmes traits, hein. Ça évolue, et souvent dans le bon sens, ce qui est vraiment le cas ici.
Le 12, ils sont rendus au 12, là.
Ah, il est déjà au 12. Ah,
ouais.
Ouais, ouais. Il fait un sacré boulot, quand même. Et donc, du coup, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une super série. Moi, j'avance très vite, là, je suis rendu au tome 16, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et je conseille fortement.
Ouais, c'est une série, et je ne l'avais pas finie, parce que... Quand vous, si vous voyez les piles de bouquins que j'ai à la maison, je peux pas tout lire. Et j'avoue que c'est, j'avais été, comme toi, séduit en fait par l'univers. Un point que t'as assez peu abordé, parce que tu voulais pas aborder les mécaniques du monde du rêve, mais c'est un manga à pouvoir. Oui. Et Renaud Lemaire arrive très créatif en fait sur l'utilisation des pouvoirs, parce que chacun des pouvoirs est lié sur les peurs.
Oui, c'est
avoir,
ça. En fait, c'est pour ça, Terrence, c'est en affrontant son cauchemar, en réussissant à surpasser sa peur viscérale, qu'il obtient le pouvoir de sa peur. Donc lui, c'était le feu. On l'apprend tout de suite dès le départ. Hein, c'est parce que sa mère est décédée dans un incendie. Et donc du coup, il arrive à affronter ça. Donc il obtient les pouvoirs du feu, pouvoir qui est un pouvoir dit élémentaire dans Dreamland et qui est très puissant. Même si au début il est vraiment nul et qu'il sait pas s'en servir, mais ça c'est ce qui en fait aussi le côté très marrant et le côté shonen hein, de toute façon. Et après on va avoir des peurs qui vont aller dans tous les sens, ça va être assez fun et il se fait vraiment plaisir sur les pouvoirs à ce niveau-là et c'est ce qui rend le truc très sympa.
Ça rend le truc très créatif, très cool effectivement. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux aborder un truc qui n'est pas du manga du coup?
Eh ben écoute, ouais, allons-y. Je
redonne juste les références.
Ah oui, les refs. Donc on est sur Dreamland de Renaud Lemaire chez Pika Édition.
Et là, c'était une chronique que toi t'as fait avec tes exemplaires.
Oui, mais, tout à fait. Voilà, c'est pas un service presse là. C'était les tomes que j'avais depuis un petit moment et que j'avais envie de découvrir et de faire partager.
Je précise que Viral Hit, par contre, c'était des services presse. Voilà. De quoi tu nous parles du coup là?
Ah bah là, changement complètement de sujet, d'atmosphère. Donc là, je vais parler d'une BD. Donc là, pour le coup, c'est un service presse qu'on nous a envoyé. Donc ça s'appelle Contagion. Donc c'est de Pierre Bessière et Céline Penaud. Et ça s'appelle, un petit sous-titre, Quand l'homme empiète sur la nature. Alors on va être sur une BD plutôt, on va dire, scientifique, à but vraiment d'apprendre des choses et d'apprendre des choses sur les virus.
Est-ce que je te propose le terme BD documentaire?
Ouais, oui, tout
ça
à
marche.
Fait. Ouais, ça marche, ouais, complètement. Ouais, BD documentaire à vocation scientifique. Voilà, okay. On est vraiment sur apprendre un peu comment fonctionne un virus, comment ça se propage. Et je savais pas trop à quoi m'attendre, notamment niveau dessin, parce qu'on est sur un dessin assez classique. On va dire c'est pas du très très grand dessin dans le sens où c'est pas en fait le but recherché.
Clairement, oui, le dessin est support en fait.
Voilà, le dessin sujet. Est vraiment support au sujet, ce qui permet de s'attacher vraiment plus aux explications et de pas être noyé dans un dessin qui nous prendrait vraiment, en fait, de vouloir découvrir une histoire. C'est vraiment pas le but. Par contre, j'ai trouvé que cette bande dessinée était vraiment très très bien faite. On apprend énormément de choses sans que ce soit lourd. C'est-à-dire que même les pages sont aérées, histoire de pas nous en mettre trop.
Pas des pavés de texte énormes.
Pas des gros pavés, pas des et. Quand il y en a un petit peu, ils en mettent pas trop sur la page avec des petits dessins, avec des trucs histoire de vraiment aérer. C'est très didactique. Après, les auteurs aussi, on s'y trompe pas tout de suite. On a donc lui, Pierre Bessière, c'est un vétérinaire praticien qui est chercheur en virologie. Donc on a un auteur qui sait de quoi il parle. Et après, il s'est fait accompagner donc d'une dessinatrice de BD et illustratrice qui est Céline Penaud. Et pour le coup, moi qui n'y connaissais vraiment rien. J'ai appris des choses, même s'il faut être concentré, parce que c'est quand même, ça reste assez complexe. Ils abordent des choses qui sont un petit peu compliquées, mais okay. De manière assez simple. Et ça vaut le coup parce que par rapport à ce qu'on a pu vivre avec le Covid, on apprend un petit peu comment fonctionne l'ARM messager, comment fonctionnent les vaccins. Et donc, du coup, ça permet de comprendre aussi pourquoi maintenant, on entend moins parler, mais qu'il est toujours là, et pourquoi il est plus aussi efficace qu'avant. Donc, on le comprend grâce à ça. En effet, il est toujours là, mais notre corps s'habitue de plus en plus. Il y a des mutations, il y a plein de choses. Donc, c'est hyper bien. J'ai eu la chance, quand je l'ai lu, d'être en week-end avec ma belle-sœur.
Okay.
Elle est pharmacienne et qui bosse dans la bioéthique. Et qui m'a dit, ah, ça a l'air intéressant. Et je lui ai dit, vas-y, lis-le, j'aimerais ton avis. Parce que toi, tu connais un petit peu plus le domaine et tout. Et elle m'a dit, en effet, il vulgarise très très bien et du coup même elle a trouvé ça super intéressant dans l'approche et la façon d'aborder le sujet.
Ça c'est cool.
Donc vraiment moi je le recommande hein. On suit un cas pratique d'un virus tout du long pour essayer de comprendre aussi comment ça se développe. Et donc voilà, moi je conseille à ceux qui veulent en savoir un petit peu plus là-dessus.
Est-ce qu'il y a des sources à la fin ou un peu partout?
Eh ben, des sources, je ne sais plus, tu vois, je ne sais plus.
Une bibliographie, un truc comme ça, tu vois, par exemple.
Il y a un lexique à la fin où il nous reparle de tous les petits mots, les choses particulières. Il y a le lexique. Et après, niveau source, je t'avoue que je ne sais plus.
C'est pas très grave, mais c'est vrai quand c'est complété en fait par des sources, s'il y a des analyses, c'est toujours plus.
Ouais, tout à fait. Mais là, au niveau source, je suis pas certain qu'ils en parlent pendant. Après, vu qu'ils suivent un cas concret de ce qui s'est passé sur un virus qui a existé, ils citent certaines agences de comment elles ont fonctionné.
Oui, on peut se renseigner,
de nous-mêmes sur certaines choses. Ouais. Puis tu vois, ils expliquent par exemple les différents laboratoires. J'ai trouvé ça très intéressant, les niveaux. Parce qu'on sait que dans les laboratoires de virus, il y a différents niveaux. Ils expliquent que L1, c'est très basique. Et puis après, au-dessus, le L5, ça, c'est vraiment, on est sur des trucs qu'il ne faut pas que ça sorte, quoi.
Ouais, donc effectivement, c'est plutôt didactique.
Ouais, très, très bien. Donc, c'est Contagion, quand l'homme empiète sur la nature. Et c'est de Pierre Bessière et Céline Penaud aux éditions Marabule.
Eh ben, merci beaucoup. Je te propose qu'on refasse une petite pause musicale avec. Pourquoi ça fait des bruits comme ça? Oula, désolé, chers auditeurs. Là, je vais vous mettre... Metric, Now or Never Know. C'est mon accent anglais, toujours.
www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous venez d'entendre Metric que j'ai tronqué. C'était Now or Never Know. Je pense qu'on n'aura pas d'autres extraits musicaux parce que du coup, on va avoir encore. Je pense que tout ce que j'avais prévu de parler, on va peut-être pas pouvoir ce soir. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. On va partir sur sur un manga. On a 3 tomes actuellement. Ça s'appelle Hadès ou l'enfer des noces. C'est de Yuo Ueji. C'est publié aux éditions Pika. C'est un service de presse. Et c'est un manga où j'ai eu du mal à y aller parce que je suis clairement pas le public. Comment résumer ? Alors, je vais essayer de pas me planter. Imaginez en fait un jour Hadès, donc si vous ne connaissez pas Hadès, le dieu des enfers, qui se prend une flèche de Cupidon en plein milieu du front. Hadès sait que à partir du moment où tu te prends une flèche de Cupidon, si tu vois quelqu'un, la flèche se décroche et tu tomberas éperdument amoureux de cette personne-là et l'autre personne inversement. Mais comme il est pas trop bête, il dit mon royaume je le connais par cœur, je me bande les yeux, épouse, je suis un dieu. Je peux me permettre cette fantaisie. Voilà. Et puis, tout seul, dans ses quartiers, il se débande les yeux. Et il tombe sur une jeune femme qui était là, comme par hasard. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, rien. Parce que elle tombe pas éperdument amoureuse de lui, lui non plus. Et par contre, elle exige... En échange de l'avoir libéré de ça, qu'il se trouve une femme, que Hadès se marie. Et alors là, c'est le doigt dans un engrenage, mesdames, messieurs, vous n'avez pas imaginé. Puisque tous les enfers vont se démener pour trouver une femme à Hadès. Tous les enfers, mais pas que, puisque même ses frères à Hadès, puisque nous avons aussi Zeus et... j'allais dire de Jupiter, mais non, c'est pas Jupiter, c'est Poséidon.
Poséidon, ah oui.
Vont aussi eux se ramener et lui présenter des futures conquêtes. Sauf que Hadès, lui, il a pas du tout envie en fait d'avoir une femme au foyer, quoique ça pourrait peut-être être utile, mais en fait non, il en veut pas. Et du coup, vous allez avoir cette imbroglio romantico mythologico shoujoesque qui est très particulier, donc c'est pour ça que j'étais pas le public, mais c'est très drôle, c'est... Si vous aimez les histoires d'amour avec des passages complètement barrés, vous êtes à fond dedans. Et en plus, tu vas pouvoir me donner ton avis aussi, mais je trouve que c'est globalement très joli.
Oui, graphiquement c'est maîtrisé, hein. Non, c'est vrai que c'est joli. Je t'accorde, moi je suis pas non plus la cible. Clairement, c'est pas trop mon style non plus. Mais par contre, graphiquement, c'est chouette, hein.
C'est super fin, c'est bien détaillé. Quand on nous présente les dieux, là, t'as tous les codes du shoujo qui débarquent avec des étincelles, des trucs qui brillent. Ils sont musclés comme il faut. Enfin, c'est juste particulier, hein. Et un truc qui est cool, c'est que tu vas quand même découvrir certains passages de la mythologie. Les caractères des dieux sont globalement assez respectés. Zeus reste un coureur de jupons avec tous les problèmes que ça peut causer. Hadès reste Hadès. Poséidon, il a aussi un côté très séducteur. Et c'est hyper intéressant de découvrir tout ça. Et découvrir aussi qui est la jeune femme qui a permis à Hadès de se débarrasser de ce fardeau et de plonger dans l'enfer des noces, du coup. Donc voilà, ça passe bien, c'est frais. Même si vous n'êtes pas le public, vous passerez pas un mauvais moment. Vous n'en profiterez certainement pas autant que quelqu'un qui est le public cible, hein, quelqu'un qui aime les comédies romantiques, puisque c'est clairement ça. Mais voilà, ça passe très bien, c'est très frais, c'est très cool.
Oui, puis a priori, bon, série en 3 tomes, donc c'est fini.
Voilà.
Clairement, donc du coup, voilà, c'est toujours chouette des petites séries comme ça, si on aime ce genre-là et si on a envie d'en découvrir.
Ouais, si on a envie d'en découvrir, ça nous permet de pas nous lancer dans un truc trop long ni trop complexe, quoi. Mm-hmm. Ben voilà. Je te laisse redonner les. Pardon, j'ai mis un grand coup de latte dans le micro. Je vous laisse redécouvrir les...
Je vais dire les références.
Merci Fabien.
Donc c'est Hadès ou l'enfer des noces de Yuo Ueji aux éditions Pika. Et c'est en 3 tomes.
Et c'est donc fini.
Terminé. 3 tomes terminés.
Voilà. Je vais aller sur un tout autre champ de travail. puisqu'on va partir dans une BD témoignage documentaire publiée aux éditions La Boîte à Bulles. C'est de Catherine Monod-Béranger et de Paolo Castaldi. Ça s'appelle L'appel des bouts du monde, une vie d'humanitaire. Je vais juste reprendre le prénom de l'héroïne. Voilà. Hop. De quoi ça parle? Tout est dans le titre. Ça parle de Joël, une jeune infirmière qui, sur un coup de tête, va décider de s'engager dans l'humanitaire dans les années 70, à l'époque où tout est encore à construire, et qui va y prendre un goût démesuré, puisqu'elle va, dès que possible, en fait, aller sur des fronts ou sur des zones complexes pour donner tout ce qu'elle peut et soigner les personnes qui sont sur place et qui en ont besoin. Techniquement, je pourrais m'arrêter là, puisque c'est effectivement de ça que ça parle. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est une vie d'humanitaire. Puisqu'on va suivre Joël de ce début des années 70 jusqu'à nos jours. Et les différents, j'allais dire lieux de conflit, mais pas systématiquement, mais lieux compliqués sur lesquels elle a pu intervenir pour permettre à des gens de vivre dans des conditions meilleures, au détriment de sa propre santé, parfois. Puisqu'elle va aller, alors je peux pas reciter tout, mais elle a dû faire l'Afghanistan, elle a dû aller en Afrique sur certaines zones un peu compliquées. Alors, il y a toute une carte que je vais pas vous ressortir, mais c'est toujours très intéressant de la suivre, puisque avant chaque chapitre, chaque mission humanitaire, on a une page qui nous résume un petit peu la situation dans cette zone du globe où elle va se trouver, et c'est ça permet de recontextualiser. J'avoue que la situation géopolitique mondiale, je la connais pas toujours. Il y a des zones du globe, je ne connaissais pas vraiment les conflits, ou juste j'avais entendu parler de guerre ou d'attaques armées.
Oui, je pense qu'en effet, c'est quand même important. Là, je suis sur une des pages. Je vois, par exemple, il y a la République de Djibouti en 1979. Bon, bah, si on nous met pas un petit, on contextualise pas un petit peu, ça va être difficile de bien cerner le sujet, quoi. Mais du coup, c'est plutôt bien d'avoir fait ça comme ça, ouais.
Ouais, puis c'est vraiment hyper intéressant et, ce qui est génial avec cette BD, c'est qu'on suit une femme qui s'engage pour les autres, qui au fur et à mesure de ses missions va rencontrer des gens avec qui elle va se lier d'amitié, des gens qui parfois vont perdre la vie, donc avec pas mal d'émotions, puisque ça reste quand même des zones dangereuses, pour diverses raisons. Hein. Des fois, c'est des conflits qui sont encore très très vifs, et puis des fois, c'est simplement que les conditions sanitaires sont très complexes. Et puis, on va aussi découvrir, et c'est aussi le caractère de Joël qui est hyper intéressant, l'évolution des missions humanitaires. Au départ, on y allait parce qu'on avait besoin de monde, et à la fin, on peut ne plus y aller parce qu'on a une dimension trop politique et qu'on sera pas bienvenu sur place, alors que les gens ont besoin. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte que bah, même si on veut aider, c'est pas toujours facile. Un passage qui est hyper intéressant, il y a tout un moment où Joël se retrouve dans des pays musulmans et elle a beau être la responsable de la mission humanitaire qui est là-bas, ce n'est pas à elle qu'on parle, puisque c'est une femme. Et ça va aussi beaucoup jouer dans les missions qu'elle va pouvoir choisir à l'avenir, parce que effectivement, si elle ne peut pas faire jouer son travail à elle, bah, ça devient compliqué. Et du coup, elle va pouvoir aller dans des missions qui vont où on va être un petit peu plus à son écoute. Graphiquement, je pense qu'on est sur de l'aquarelle. C'est que des tons sépia grisés avec pas mal de touches de couleurs, notamment la couleur orange, orange comme le dos de la couverture, puisque Joël, dans sa prime jeunesse, était rousse. Et c'est rigolo de voir que ils vont jouer sur les différentes couleurs. Donc effectivement, Joël se démarque quasiment systématiquement quand on la voit sur les pages. Et puis les moments d'accalmie, les pages sont plus colorées et les moments plus durs, on va être quasiment que sur des tonalités de gris qui nous mettent dans un ton un peu apathique et qui nous font sentir la tristesse et la difficulté de la situation.
Je le trouve le dessin très impactant.
Ouais.
Je le parcours là depuis tout à l'heure. Et rien qu'en voyant le dessin, ça nous plonge dans l'atmosphère qui a l'air vraiment très difficile. De toute façon, c'est aussi l'objectif d'expliquer ce qui s'est passé. Et je trouve ça très impactant et je pense que ça nous plonge encore plus dedans pour faire ressentir les émotions
ouais.
et les sujets qui peuvent être douloureux et les scènes qui ont l'air douloureuses. clairement, il se passe des, l'air de se passer pas mal de choses qui sont pas très gays.
Mais il y a des moments gays quand même. Et c'est ça qui est cool.
Ouais, en tout cas, je trouve que ce dessin, il est impactant. C'est vraiment, ça donne, ça nous plonge dans le livre tout de suite, dès qu'on l'ouvre, je trouve.
Il est très immersif, effectivement. Ce qui est hyper intéressant aussi dans cet ouvrage-là, c'est que ça nous pose, nous, lecteurs, des questions sur ce qu'on peut faire au quotidien et quels sont les choix, en fait, qu'on peut avoir à faire pour aider les gens, si on le souhaite. Elle, Joël, se retrouve avec d'autres personnes dans des cas de figure très compliqués, puisque à un moment, on va se retrouver à soigner des gens qui ont été victimes d'un sniper dans une rue, et quelques instants après, on a le sniper dans les mains, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le soigne? Est-ce qu'on ne le soigne pas? Alors qu'on sait très bien que dès qu'il sera remis, il va recommencer. Et c'est des cas de conscience que je ne sais pas si j'aurais été capable de faire et que Joël a été amené à faire, qui donnent une grosse dimension très humaine à ça, en fait. Est-ce qu'on sauve tout le monde? Est-ce qu'on sauve que ceux qu'on choisit? C'était pour ça que la politique est un peu compliquée à la fin. Tu vois.
Oui, forcément. C'est toujours des sujets qui sont difficiles. Hein. Mais ça a l'air vraiment très, très intéressant, en tout cas.
Eh ben, ça l'était. Ça fait partie des bouquins, comme beaucoup souvent, que j'ai laissé de côté, me disant « Ouais, le sujet va être un peu dur pour moi », et en fait, je l'ai dévoré, ça roulait tout seul, quoi. Je te laisse redonner les références.
C'est parti. Donc, c'est « L'appel des bouts du monde, une vie d'humanitaire » de Catherine Monod-Béranger et Paolo Castaldi aux éditions... Toc, toc, toc.
La boîte à bulles.
Je la trouvais pas.
Il s'était caché derrière.
Ouais, c'est ça. That's all, folks.
Et oui, c'est bientôt la fin de l'émission, mon cher Fabien.
Oui, j'ai été surpris.
C'est passé très vite.
Oui, très très vite.
Est-ce qu'on redonne rapidement les différentes choses dont on a parlé?
Eh ben, allons-y.
On a parlé de Dreamland de Renaud Lemaire aux éditions Pika. On a parlé de Contagion, mais alors j'ai pas retenu le nom des auteurs.
Contagion, quand l'homme empiète sur la nature, de Pierre Bessière et Céline Penaud aux éditions Marabule.
On a parlé de Hadès ou l'enfer des noces chez Pika Édition de Yuo Ueji.
On a parlé de L'appel des bouts du monde, une vie d'humanitaire de Catherine Monod-Béranger et Paolo Castaldi aux éditions La Boîte à Bulles.
Et on a parlé de Viral Hit aux éditions Pika Collection Wavetoon.
De King Jung-Yoon et Pak Tae-jun.
Eh ben c'est parfait. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve dans 15 jours.
Dans 15 jours.
Bonne soirée Fabien.
Bonne soirée à toi aussi et bonne soirée à vous tous.
Et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs Batman et venons-en au fait.
Rampez vite! Il n'est pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi! Yeah, it was something.